C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djendji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous ne vous êtes pas trompés et à cet instant précis, vous êtes connectés à l'heure de la vérité. L'heure de la vérité qui est cette émission de méditation profonde où la vérité biblique est proclamée sans compromis, sans concession et sans détour. Où que vous soyez, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, juste à mes côtés, mon bien-aimé frère dans le Seigneur, Yannick, quant à moi, je demeure toujours votre très humble serviteur. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes divines grâces et surtout pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits, ta divine protection, ton souffle de vie et tous les bienfaits qui nous ont accompagnés jusqu'à cette heure-ci. Nous voulons vraiment te dire merci et te donner toute la gloire. Nous voulons également te dire merci pour ce moment que tu nous accordes autour de ta sainte parole. Merci pour toutes ces multitudes qui sont à l'écoute. Merci de les bénir abondamment. Merci de bénir ce moment. Merci parce que nous croyons vraiment que ce n'est pas en vain que nous prenons un peu de temps autour de ta sainte parole. Certainement, tu veilleras afin que ton nom soit glorifié, afin que des multitudes soient édifiées, bénies, délivrées et sauvées. Et toute la gloire, les honneurs et les actions de grâce vont te revenir à toi seul, maintenant et pour toujours. Amen. Frère Yannick, une fois de plus, par la grâce du Seigneur, tu es là et comme d'habitude, je vais te dire non seulement d'être la bienvenue, mais surtout d'être abondamment béni dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen, bien-aimé. Je veux profiter pour saluer tous ceux qui nous écoutent depuis la prison et prie qu'ils soient vraiment bénis dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui nous écoutent. Amen.
Amen. Très chers auditeurs, très chères auditrices, nous avons déjà eu à partager sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets. Nous allons faire une petite pause. J'ai l'habitude, chaque fois lorsque j'enseigne, partout, que ce soit même à l'Assemblée, de donner l'opportunité à tous ceux-là qui ont des questions, des préoccupations de quelque nature que ce soit, de pouvoir poser ces questions et ces préoccupations. Parce que c'est toujours important d'avancer tout en étant convaincu que les gens ont suffisamment écouté ce qui a été dit. Et si les gens n'ont pas suffisamment écouter, ou bien si les gens ont des préoccupations qui n'ont pas été répondues à la lumière des Saintes Écritures, c'est toujours important de s'arrêter un tout petit peu et de donner l'opportunité aux gens de poser les questions et les préoccupations. Parce que ça ne sert à rien de courir avec des interrogations. Même à l'école, à un moment donné, les professeurs, les maîtres, les maîtresses doivent s'arrêter pour demander aux élèves s'ils ont vraiment bien compris. Et s'ils ont des questions, c'est toujours important de leur donner l'occasion de poser les questions et les préoccupations. C'est vraiment très très important. Et c'est ce que nous allons faire en ce moment-ci. En attendant, nous vous donnons l'occasion de vous installer confortablement. Vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Et cette émission est un peu spéciale parce que c'est une émission qui est consacrée aux questions-réponses. Je vais m'intéresser à cette question qui est constamment posée. Et cette question, c'est tout simplement, tu es de quelle église? C'est une question qui m'est posée régulièrement. Tu es de quelle église? C'est une question qui paraît simple. Mais en réalité, la réponse à cette question peut faire des livres. Parce que la notion de l'Église n'est pas vraiment connue comme cela se doit. Parce que on a fait croire aux gens que les religions qui existent sur cette terre sont l'Église. Il est vrai que je me suis entretenu avec vous à plusieurs reprises sur ce sujet qu'est l'Église, mais je me suis rendu compte que beaucoup n'étaient pas à l'écoute. D'ailleurs, en passant, je tiens à dire que ces messages, ces différents messages, existent sur des supports CD. Si vous en avez besoin, vous n'avez qu'à entrer en contact avec nous. Et tout cela est offert gracieusement ou bien gratuitement. Tu es de quelle Église? C'est une très belle question. Déjà, nous pouvons dire que, à la lumière des Saintes Écritures, l'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament. Et c'est de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ que nous allons comprendre le mot Église pour la première fois. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Avant de lire cette portion des Saintes Écritures, frère Yannick, je ne sais pas, selon toi, qu'est-ce que l'Église?
Selon moi, je crois que dans Matthieu 18, le verset 20, le Seigneur Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Ici, le Seigneur ne dit pas que là où deux ou trois sont assemblés dans, en fait, sous la bannière d'un nom ou d'une organisation, il est au milieu d'eux. Je crois que le Seigneur dit tout simplement, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. D'après moi, c'est un peu...
Ok, c'est vrai. C'est un verset biblique que tu as cité, qui est dans Matthieu chapitre 18, verset 20, où Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En fait, localement parlant et bibliquement, c'est ça l'Église, là où les gens sont assemblés au nom du Seigneur. Et Jésus n'a pas dit au nom d'une religion. Je tiens à préciser que ce sont les hommes qui ont créé des religions. Lorsque vous lisez la Bible, Jésus n'a créé aucune religion. Et nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu et les hommes en général. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, je disais tantôt, le Seigneur Jésus-Christ va utiliser le mot « église » pour la première fois. Il va dire « Je bâtirai mon église ». Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, l'église n'existait pas encore. C'est pour cette raison qu'il a utilisé cette expression « au futur ». « Je bâtirai ». Donc, l'église était à venir. Donc, la véritable église biblique, c'est une église qui est bâtie par le Christ lui-même. C'est Christ qui est le fondateur, c'est Christ qui est également le chef. Et c'est très très important. Parce que nous voyons beaucoup d'organisations sur la terre qu'on appelle église, qui ont des hommes comme fondateurs. D'ailleurs, certains vont même jusqu'à mettre leurs photos dans les églises. Parfois, ils mettent leurs noms à côté de leur église. Comme si c'était les choses. Quelque part, c'est normal, c'est les choses. Mais la véritable église, c'est Christ qui est le fondateur et c'est lui qui est également le chef. Et Christ dit, je bâtirai mon église et non mes églises. Donc, Christ n'a qu'une église sur la terre. Il n'a pas plusieurs églises. Ce sont les hommes qui ont créé les églises ou les organisations religieuses. Et dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, vous êtes invités, mesdames et messieurs, à avoir un stylo et sur quoi noter toutes ces références bibliques. Et après, vous allez prendre tout votre temps pour pouvoir les vérifier. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, frère Yannick, qu'est-ce qui est écrit là?
Il est écrit, Marie. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Parole du Seigneur.
Amen. Christ a aimé l'Église et non les Églises. Donc il n'y a qu'une Église sur la terre qui est l'Église du Seigneur Jésus. Et cette Église, ça n'a rien à voir avec les religions. Cette Église, ce n'est que tout simplement l'ensemble des vrais chrétiens sur la terre. C'est cet ensemble qui forme le corps de Christ et l'Église du Seigneur. Et la Bible nous dit également que Jésus connaît tous ceux qui lui appartiennent. Beaucoup peuvent être inscrits dans le registre des religions sur la terre, alors qu'ils n'appartiennent pas à Christ. Et toujours dans ce chapitre 5 d'Éphésiens, le verset 23 est clair. Le verset 23 va confirmer ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est écrit là? Verset 23, un peu plus haut. Nous sommes toujours à Éphésiens chapitre 5.
Il est écrit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Parole du Seigneur.
Amen. La Bible nous dit clairement ainsi que Jésus-Christ est le chef de l'Église, et l'Église est en même temps son corps. Et lorsqu'on parle d'un corps, on parle des membres. On ne peut pas parler d'un corps sans parler des membres. Et les membres du corps de Christ ne sont que tout simplement les chrétiens nés de Dieu, nés de nouveau, habités par son esprit. Voilà l'Église, selon la Bible, qui a un fondateur, qui est le Christ, qui est également le chef. Malheureusement, sur cette terre, nous avons beaucoup d'églises qui ont des chefs, qui sont des hommes, qui sont même à la limite vénérés. C'est tout simplement regrettable et c'est de l'ignorance. Dans Romains chapitre 8, le verset 9, ce verset va également confirmer ce que je disais tout à l'heure, que ce ne sont pas tous ceux-là qui se disent chrétiens, qui sont vraiment les membres du corps de Christ, qui font partie réellement de l'Église du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ce verset va nous dire, frère Yannick, Romains chapitre 8, le verset 9?
Il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parole du Seigneur.
Amen. La Bible est claire et formelle. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on n'appartient pas au Christ ou à l'Église du Seigneur Jésus parce qu'on est dans une religion. Mais parce qu'on a reçu l'Esprit de Christ le jour qu'on s'est convertit sincèrement, qu'on se repentit. Ce jour même, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui incorpore l'homme dans le corps de Christ. Et ainsi, il devient membre de l'Église du Seigneur. Donc, quelqu'un peut être membre de l'Église du Seigneur sans pour autant être membre des organisations religieuses sur la terre. De la même manière, quelqu'un peut être inscrit dans le registre d'une religion et ne pas être reconnu au ciel. Donc, pour résumer, l'Église, selon la Bible, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont reçu son Esprit. Et cette Église, qui est d'abord invisible, a pour chef suprême le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le fondateur, celui qui est le chef. Et son expression locale maintenant dans un endroit donné, dans une localité donnée, c'est là où les gens s'assemblent au nom du Seigneur. Donc quand les gens s'assemblent réellement au nom du Seigneur, la Bible nous dit qu'il est au milieu d'eux. Donc ils n'ont pas besoin de mettre une plaque publicitaire ou de mettre un nom, je ne sais pas, qui se sont inventés eux-mêmes. Voilà à la lumière des Saintes Écritures, la Bible. Et c'est ça qui est la vérité. Et ce message qui parle du mariage, est-ce que c'est possible qu'un chrétien catholique se marie et un témoin? Je n'ai pas très bien compris le message. De toute façon, nous allons essayer de déchiffrer et répondre. Ça concerne le mariage. C'est vrai que nous avons tellement parlé de mariage à cette même antenne. D'ailleurs, ce message existe également sur des CD. Si vous en avez besoin, entrez en contact avec nous, puisque nous avons consacré au moins 5 émissions à ce sujet très important qu'est le mariage, parce que c'est un sujet tellement vaste. Ce que nous pouvons déjà dire concernant le mariage d'un chrétien, d'ailleurs, cette question m'a été posée il n'y a pas longtemps, juste quelques jours. Est-ce qu'un chrétien peut-il se marier avec un non-chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut-il se marier avec un non-chrétien? Ce n'est pas conseillé à la lumière des Saintes Écritures. Déjà, Amos chapitre 3, le verset 3 nous dit ceci. Relevez Amos chapitre 3, le verset 3. Frère Yannick, pendant que tu vas chercher cette portion de Saintes Écritures, je tiens à signaler que cette émission est un peu spéciale, c'est une émission question-réponse. Frère Yannick, qu'est-ce que Amos chapitre 3, le verset 3 nous dit?
Il est écrit: deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être concertées?
La Bible pose une question. Est-ce que c'est possible que deux personnes marchent ensemble sans s'être concertées, sans être d'abord d'accord? En ce qui concerne le mariage, si quelqu'un est déjà chrétien et qu'il veut se marier à un non-chrétien ou à une non-chrétienne, la Bible nous dit que ce n'est pas du tout possible. Parce que pour pouvoir marcher ensemble, vous devez être d'accord sur certains principes. Sinon, ce mariage a déjà échoué même avant de commencer. Parce que si quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que vous, les mêmes convictions religieuses, entre guillemets, que vous, il y a peu de chances que vous entendiez même étant marié. Parce qu'il faut être réaliste. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 et 15. Est-ce qu'un chrétien peut-il se marier avec un non-chrétien? Vous pouvez relever cette portion de Saintes Écritures, 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 et 15. Frère Yannick, si tu as trouvé cette portion de Saintes Écritures, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Parole du Seigneur.
Alléluia. La Bible est claire et formelle. Il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Et la Bible nous dit clairement de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Donc c'est tellement clair. Si vous êtes un enfant de Dieu, un chrétien, sachez que la Bible vous conseille vivement de ne pas vous lier à ceux-là qui n'ont pas les mêmes convictions que vous n'importe comment. Parce qu'il n'y a pas de rapport. Si vous avez des principes, si vous avez la crainte de Dieu et que la personne qui est en face n'épouse pas vos principes, votre vision, n'a pas la crainte de Dieu comme vous, pour être réaliste, ça ne marchera pas. J'ai l'habitude de prendre cet exemple banal. Quelqu'un qui ne croit pas comme vous au Seigneur, pendant que vous vous levez, vous dites, je m'en vais prier, la personne vous dit carrément, ça n'engage que toi, je ne prie pas le même Dieu que toi, je m'en vais voir mon marabout, mon féticheur. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez vivre en étant à l'aise dans cette condition. C'est pour cette raison que la Bible nous dit clairement, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Que la personne qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. Et 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, va nous dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Frère Yannick, si tu trouves ce verset, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen.
Amen. Cette portion de la Sainte Écriture s'adresse aux chrétiens. La Bible nous dit qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Donc, en passant, il n'y a que la mort qui brise les liens du mariage. Même si les deux sont séparés, la Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'un des partenaires est vivant, ils sont toujours liés aux yeux de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que les gens ont divorcé, s'ils avaient été liés auparavant légalement, que les liens du mariage sont brisés. Non, la Bible nous dit clairement, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, ou vice-versa, que sa femme est vivante. Présentement, je sais que beaucoup sont en train de vivre dans l'adultère sans le savoir, parce qu'ils se sont remariés alors que leur partenaire est encore vivant. Repentez-vous et essayez de remettre de l'ordre dans votre vie pendant qu'il est encore temps. Et la suite de ce verset 39 de 1 Corinthiens chapitre 7 va nous dire ceci. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Mais la précision est maintenant de taille. Mais seulement dans le Seigneur. Seulement dans le Seigneur. Donc, pour résumer, la Bible conseille vivement à un chrétien ou à une chrétienne de se marier dans le Seigneur. Autrement dit, de se marier avec un chrétien ou une chrétienne. C'était pour répondre à cette question. Est-ce qu'un chrétien peut-il se marier avec un non-chrétien? Vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Restez tout simplement à l'écoute.
If I could have one desire, before my life is through, even in my darkest night, my light would shine for you. If I could stop the hands of time or make a wish come true, I would tell my heart to burn with fire for no one else but you. This This is my one desire.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'heure de la vérité et cette émission, c'est une émission questions-réponses. Avant de passer à une autre question ou à d'autres questions, pour répondre à cette auditeur concernant le mariage, il est vrai que les religions que les hommes ont créées ne viennent pas de la Bible, qu'à cela ne tienne. Si vous êtes dans une religion et que votre partenaire est plutôt dans une autre religion, ou bien votre futur partenaire, franchement, ce n'est pas conseillé de vous engager dans les liens de mariage. C'est mieux d'abord de vous asseoir et de vous accorder sur beaucoup de choses avant de vous engager dans les liens du mariage. Parce que si déjà vous n'êtes pas d'accord sur beaucoup de choses concernant déjà même la parole de Dieu, votre mariage a peu de chances de réussir. Ça ne sert à rien de courir. Asseyez-vous et débattez sérieusement sur certains sujets. Par exemple, ce n'est pas normal qu'un couple se marie. Je veux dire, un couple légalement marié prie chacun de son côté, chacun dans sa religion. Ce n'est pas bien, même pour les enfants. Si les enfants veulent suivre le père ou la mère, nous voyons déjà qu'il y a division dès le départ. Donc asseyez-vous et réglez d'abord ce problème avant de continuer. Nous allons continuer à nous intéresser à ces questions qui sont posées. Beaucoup de questions autour du baptême, beaucoup de questions. Et puisque nous sommes là pour affronter ces questions et essayer de répondre en tenant compte de ce que dit réellement les Saintes Écritures. Première question concernant le baptême, est-ce que le baptême sauve? Est-ce que le baptême sauve? Nous allons lire pour répondre à cette question. D'abord dans l'évangile de Marc, chapitre 16, les versets 15 et 16, et après la première lettre de Pierre, chapitre 3, le verset 21. Frère Yannick, si tu trouves l'évangile de Marc, chapitre 16, les versets 15 et 16, tu peux lire pour nous tous. L'évangile de Marc, chapitre 16, les versets 15 et 16.
Il est écrit: puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole du Seigneur.
Amen. Déjà, c'est pour dire ici que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a institué le baptême. Donc, le baptême n'est pas une invention humaine. C'est très, très important. C'est pour cette raison que nous allons uniquement nous tourner vers les Saintes Écritures. Et maintenant, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21, va nous dire que... Quoi, frère Yannick, si tu es à la page?
1 Pierre.
Chapitre 3, le verset 21. Je suis à la page, je lis pour nous tous. Il est écrit: cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification. Écoutez très bien. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La Bible nous dit clairement que le baptême, en réalité, ce n'est pas ce baptême qui purifie, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité. Mais le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le baptême seul en lui-même ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Mais tous ceux qui ont accepté le Christ par la foi sont obligés de se baptiser. Mais le baptême ne sauve pas. Mais tous ceux qui sont sauvés doivent se baptiser. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tous ceux qui vont croire vont être baptisés. Et une autre question qui tourne autour du baptême, cette question revient constamment. Est-ce qu'on doit baptiser les enfants? Puisque les gens ne cessent de poser cette question, nous sommes obligés d'y revenir et de répondre. Je tiens également à signaler que ce sujet a été également enseigné terre à terre à cette même antenne. Et ce message existe également sur des CD avec tous les détails. Vous pouvez également vous en procurer si vous en avez besoin, tout simplement en nous contactant. Tout cela est distribué gratuitement. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, dit clairement que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Autrement dit, les enfants ne peuvent pas s'engager avec une bonne conscience envers Dieu. C'est ce que la Bible déclare et c'est ça qui est la vérité. Et si nous retournons dans l'évangile de Marc, chapitre 16, les versets 15 et 16, le Seigneur Jésus-Christ est clair et formel. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est lui qui croira. Donc il faut d'abord croire avant de se baptiser. Donc les enfants ne peuvent pas croire. Croire c'est quoi? C'est se repentir de ses péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ par la foi comme son Seigneur et Sauveur en confessant ses péchés. C'est ce que la Bible enseigne. Donc les enfants en réalité ne devraient pas être baptisés. On doit tout simplement leur montrer le droit chemin. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont eux-mêmes choisir de se baptiser avec une bonne conscience envers Dieu. Cette autre question qui tourne toujours autour du baptême. Est-ce qu'on est obligé de se baptiser par immersion? Est-ce qu'on est obligé de se baptiser par immersion? Déjà, le mot grec baptizon, qui veut dire baptême, sa vraie définition, c'est tout simplement immerger ou immersion totale. En réalité, lorsqu'on parle de se baptiser par immersion, c'est une tautologie. Parce que déjà, baptême en lui seul veut dire immerger. Baptize, c'est un mot grec. Immerger ou immersion totale. Donc, en réalité, on devrait dire se baptiser ou bien se plonger, s'immerger. Parfois, on est obligé de dire baptême par immersion pour se faire comprendre, mais c'est une tautologie. Et une fois de plus, nous allons tout simplement nous tourner vers les Saintes Écritures. Nous ne sommes pas là pour enseigner notre sagesse ou les dogmes ou encore moins la philosophie de l'homme. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu chapitre 3. À partir du verset 5, verset 6, frère Yannick, si tu trouves cette portion de Saintes Écritures, tu vas le lire pour nous tous. Le premier à baptiser sur la terre, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est écrit là le concernant?
Il est écrit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain.
Amen. La Bible est claire. Le premier qui a commencé à baptiser sur la terre, Jean-Baptiste, il baptisait. La Bible nous dit clairement, les gens venaient confesser les péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et le verset 16 va nous parler également du Christ qui va se baptiser. Qu'est-ce qui est écrit là au verset 16 du même chapitre 3 de Matthieu?
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui.
Amen. La Bible est claire. Le Christ s'est baptisé. Et la Bible nous dit que lorsqu'il eut été baptisé, il est sorti de l'eau. Donc, le Christ lui-même s'est baptisé. et c'était dans l'eau. Et déjà, si nous remontons un peu plus haut, écoutons attentivement ce que le Christ va dire à Jean-Baptiste qui va refuser de l'eau baptisée. Le verset qui est en haut va dire quoi, frère Yannick?
Le verset 13.
Oui, tu peux commencer même à partir du verset 13 pour que nos auditeurs et auditrices puissent comprendre certaines choses.
Il est écrit: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne résista plus.
Amen. La Bible nous dit que Jean a carrément dit à Jésus: je ne suis pas digne de te baptiser. Donc Jésus ne se baptisait pas parce qu'il avait besoin de confesser ses péchés et se repentir comme les autres. Il va clairement dire à Jean: laisse faire, il faut que nous fassions ce qui est juste. Donc le Seigneur Jésus-Christ a tout simplement montré le droit chemin à ceux qui devaient le suivre. Il voulait montrer ce qui est juste, le droit chemin. Et c'est très, très important de souligner cela. Nous allons également lire pour répondre à ceux-là qui disent que puisque Jésus s'est baptisé dans le Jourdain, est-ce qu'il faut alors aller en Israël pour se faire également baptiser comme les autres et comme Jésus dans les eaux du Jourdain? Nous allons également répondre par les Saintes Écritures. Nous sommes cette fois-ci dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 23. Il est clairement écrit ceci. L'Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 23. Frère Yannick, si tu es à la page, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit: Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé par le Seigneur.
Amen. C'est tellement clair. Donc, ce n'est pas seulement dans le Jourdain que Jean baptisait. La Bible nous dit que il baptisait aussi à Énon, près de Salim. Pourquoi? La Bible nous dit: parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et qu'on y venait pour être baptisé. Donc, pour que le baptême soit vraiment conforme aux Saintes Écritures, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Et si nous lisons également le récit de l'eunuque éthiopien qui s'est baptisé, cette histoire se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 8. À partir du verset 26 au verset 39, c'est une longue lecture. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26 au verset 39. Nous n'allons pas lire, nous allons juste nous intéresser à ce qui nous intéresse directement, particulièrement d'abord au verset 26. Il est écrit ceci: et l'ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Gaza à Jérusalem, celui qui est désert. Voilà. Et nous sommes maintenant au verset 34. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comment ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Verset 37, Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. C'est tellement clair. Et cette autre question qui tourne toujours autour du baptême: est-ce qu'on peut se baptiser deux fois? Est-ce qu'on peut se baptiser deux fois? Nous allons tout simplement répondre avec les Saintes Écritures en main. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du premier verset. Frère Yannick, si tu trouves cette portion des Saintes Écritures, tu vas lire pour nous tous. Est-ce qu'on peut se baptiser deux fois? Je tiens à préciser que cette émission, c'est une émission question-réponse. Nous essayons de répondre aux préoccupations des multitudes. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du premier verset, au verset 7.
Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisèrent. Ils étaient en tout environ 12 hommes par le Seigneur.
Amen. Nous voyons aussi 12 personnes qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Cette personne qui a commencé à baptiser, qui a baptisé même Jésus. Et ces personnes avaient été baptisées par Jean-Baptiste. Mais lorsque l'apôtre Paul va les rencontrer à Éphèse, il va s'entretenir avec eux. Et l'apôtre Paul va se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui clochaient dans les vies, dans les marches. Et il va les prêcher l'évangile à nouveau. Et lorsqu'ils vont vraiment croire, ils vont être maintenant rebaptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que nous venons de lire. Alors qu'ils avaient été baptisés par cette même personne qui a baptisé Jésus. Donc c'est possible de se rebaptiser. Si le premier baptême qu'on a eu, si on n'avait pas cru, parce qu'il y a les gens qui se baptisent alors qu'ils n'ont pas cru, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a les gens qui ont fait des mauvais baptêmes parce que ce n'était pas conforme aux Saintes Écritures. À la lumière des Saintes Écritures, on peut se rebaptiser. C'est ce que déclare la Bible. Nous venons de le lire. Vous écoutez l'air de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et cette autre question, qu'est-ce que la repentance? Ce sont toujours ces questions que les gens sont en train de se poser. Qu'est-ce que la repentance? C'est vrai que nous entendons tellement ce mot repentance. À vrai dire, c'est un mot qui est presque partout dans la Bible. Et la repentance, pour résumer, c'est lorsqu'on a la conviction du péché et qu'on se rend compte qu'en réalité, on est sur un mauvais chemin et qu'on décide de demander pardon à Dieu ou même aux hommes. Et en prenant l'engagement de changer ou en faisant les efforts de ne plus faire ses erreurs, de ne plus commettre ses péchés. En fait, c'est ça, la repentance. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, Jean-Baptiste a parlé de la repentance, Jésus-Christ a parlé de la repentance, les apôtres ont parlé de la repentance. En fait, la repentance, c'est tout simplement par là que nous pouvons entrer royalement dans le royaume des cieux. Par exemple, si nous lisons de la bouche même du Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc chapitre 24, à partir du verset 45, lorsqu'il va ressusciter, il va rencontrer deux disciples. Et voici ce qu'il va leur dire. Nous sommes dans l'évangile de Luc chapitre 24, à partir du verset 45 au verset 47. Frère Yannick, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoin.
Vous êtes témoin de ces choses. Amen.
Amen.
Nous voyons le Christ ici qui va dire clairement à ses disciples que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc, pour que les péchés soient effacés, il faut qu'il y ait repentance. Les péchés ne peuvent pas être effacés si les hommes ne se repentent pas. Les hommes ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux sans passer par la repentance. Donc, se repentir, c'est tout simplement reconnaître ses péchés et de prendre l'engagement d'abandonner ses péchés, demander pardon au Seigneur et décider de vivre désormais en faisant tous les efforts pour ne plus commettre ses péchés. C'est ça la repentance à la lumière des saintes Écritures. Vous écoutez l'heure de la vérité. Compte tenu du temps, d'un moment à l'autre, nous allons nous séparer.
Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois.
Avant de nous séparer, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30 au verset 32. L'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30 au verset 32. Frère Yannick, tu peux lire cela pour nous tous.
Il est écrit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen.
Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, si vous demeurez, si vous demeurez, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps, nous allons nous séparer. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Frère Yannick, un dernier mot avant que nous nous séparions.
Oui, je vais juste continuer dans le même
chapitre verset 36 qui dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Donc j'invite les fidèles auditeurs d'être vraiment affranchis par le Fils pour être libre. Car la vraie liberté ne vient que du Fils. Amen.
Amen. Pour vous servir, je demeure toujours votre très humble serviteur. Que la bonne main du Seigneur soit vraiment sur vous et soyez abondamment bénis et surtout gardez la foi.
Amen.
Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Paisible par m'accompagneront pendant mon voyage ici-bas. My desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give.
This is my